Clarification par rapport à la leçon 1, ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que quelqu'un est venu me poser des questions après. La semaine dernière, on parlait ensemble du blasphème contre le Saint-Esprit. Et une question pratique qui avait été posée, c'est, admettons qu'une personne expérimente quelque chose et attribue ça à l'Esprit. Alors, par exemple, si le parler en langue qu'on trouve dans certaines assemblées, qui ne sont pas nécessairement des langues humaines, si la personne dit « ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit », c'est clair, ça vient de l'Esprit. Puis moi, dans ma conviction, à la lumière des Écritures, je dis « faut que ce soit une langue humaine, donc ça ne peut pas être une œuvre de l'Esprit ». Une personne, un chrétien, est convaincu que c'est une œuvre de l'Esprit, l'autre personne a dit non. Est-ce que la personne qui dit non a blasphémé contre le Saint-Esprit? Parce qu'elle est en train de dire, c'est pas une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose qui vient de toi, ça vient pas de Dieu. Certains chrétiens vont aller plus loin même, ils vont dire, mais c'est diabolique, c'est démoniaque. Des choses comme ça, si la personne vraiment vit quelque chose de très, très intense. D'une part, là c'est juste des commentaires pratiques, d'accord? D'une part, moi je m'abstiendrais de dire que c'est démoniaque, définitivement. Tout simplement parce que j'ai un frère devant moi qui est convaincu de l'expérience qu'il est en train de vivre. Alors ça, je ferai attention à cela. Ça ne veut pas dire que je vais adhérer et que je vais croire à l'expérience qu'il est en train de vivre puis que je vais être prêt à l'attribuer à l'Esprit de Dieu. Maintenant, avec ce qu'on a vu dans le passage, la semaine dernière, c'est clair que ce serait mal utilisé ce passage-là, puisqu'on a essayé de définir c'était quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Et pour autant qu'on peut comprendre, c'est d'attribuer l'œuvre qui a été faite à travers Jésus-Christ par l'Esprit-Saint, au diable. D'accord? Il y avait vraiment un contexte très, très précis par rapport à ça. Et je vous dirais même que dans les Épîtres, il nous est dit qu'on doit discerner dans le cas des prophéties, par exemple, si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Alors, si j'ai un frère qui dit qu'il y a une prophétie, puis moi je dis, on examine, puis notre conclusion, c'est, on ne pense pas que ça vient de Dieu. Est-ce que ça se peut que je sois en train de blasphémer contre le Saint-Esprit? Il nous est demandé d'user de discernement, d'accord? Alors, ce serait vraiment prendre ce texte-là. Quelqu'un qui dirait, tu ne crois pas à ce que moi, je suis convaincu qu'il est une expérience de l'Esprit. Tu ne crois pas à ça, donc tu es en train de blasphémer contre l'Esprit. Moi, je vous dirais, c'est un bel exemple des dommages qu'on peut faire avec la parole de Dieu, puis des offenses même qu'on peut faire avec la parole de Dieu en utilisant la parole de Dieu hors contexte. De la même manière que, vous rappelez la citation que j'ai lue au début du cours la semaine dernière, lorsque ce théologien qui disait « quelqu'un qui a cru et qui ensuite de ça a renié, il n'y a plus rien à faire, l'Église ne devrait même pas prier pour lui, c'est fait, c'est fini, il ne peut pas revenir. » C'est un petit peu pour moi le même genre de mauvais traitement qu'on peut infliger à la parole de Dieu puis qu'on peut communiquer aux gens autour de nous. Ça va? Ça répond un peu à la question, Louise? Oui. OK, alors cette semaine, un autre passage pas évident. J'ai eu pas mal de plaisir à lire, à essayer de saisir, à m'assurer que j'étais bien convaincu de ce que j'étais en train de vous apporter. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Acte 7. Acte 7. Alors, cette semaine, on regarde encore un passage qui parle de la relation des non-chrétiens, de ceux qui n'ont pas l'Esprit, d'accord, avec l'Esprit de Dieu. On n'est pas en train de parler de l'Esprit-Saint et le croyant. On est en train de parler de l'œuvre de l'Esprit envers des inconvertis. D'accord? La semaine prochaine, c'est Michel qui me remplace la semaine prochaine, et la question qui va être adressée, c'est est-ce qu'on peut prier l'Esprit? Là, on s'en vient dans des questions un peu plus pratiques, un peu plus concrètes pour nous, peut-être, dans notre expérience comme chrétiens. Acte 7. En fait, ça commence avec Acte 7, 9. Juste pour vous remettre dans le contexte, l'Église vient de nommer et choisir des hommes pour s'occuper de la distribution de la nourriture, tout ça, d'accord? Et certains hommes commencent à se démarquer à travers ça, dont, si vous allez au verset 5, cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alors, il y a Étienne qui ressort du lot ici, qui ressort même parmi tous les gens de l'Église. Alors, dans cette série, dans cette séquence-là, on va voir Étienne, Philippe et Saul de Tarse, qui sont trois personnages importants dans les chapitres 6 à 9, si je ne me trompe pas. Maintenant, lorsqu'on arrive au verset 9, acte 6, 9, juste avant d'aller vers le chapitre 7, « Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, on parle d'Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Remarquez, ils soudoyèrent, d'accord? Ils sont allés chercher des faux témoins. Ils émurent le peuple et les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Alors, Étienne va comparaître devant le Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Remarquez les accusations. On va les voir bientôt dans l'Évangile de Matthieu. Ça ressemble drôlement aux accusations qui avaient été portées contre Jésus aussi. D'accord? C'est très, très, très similaire. Puis en effet, il reproche un peu ce que Jésus enseignait. « Car nous l'avons entendu, au verset 14, dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Donc, c'est à peu près les mêmes fausses accusations, d'accord, qui vont être portées ou qui avaient été portées contre Jésus. Et là, à ce moment-là, le souverain sacrificateur va interroger Étienne pour savoir comment est-ce qu'il se défend. Et Étienne va nous donner la plus longue prédication qu'on a de rapporter dans tout le livre des Actes. D'accord? Qui est familier avec cette prédication-là un peu? Vous savez, en gros, de quoi ça parle. Juste pour que je sache à qui je m'adresse. OK. Étienne fait un survol de l'histoire d'Israël. C'est ça qu'il fait en gros, en commençant par Abraham. Il s'en va à plusieurs des moments marquants dans l'histoire d'Israël. Et ce que Étienne s'applique à faire, c'est de démontrer la rébellion constante du peuple d'Israël à Dieu. Il veut faire ressortir une constante chez ce peuple-là. Ils sont rebelles à Dieu. D'accord? Par exemple, si vous allez au verset 39, acte 7, 39, « Nos pères ne voulurent pas lui obéir. » On parle de Moïse ici. « Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. » OK, alors, Étienne est en train de faire ressortir une constante chez le peuple d'Israël. Ils sont rebelles à Dieu, ils s'opposent à Dieu malgré le fait qu'ils ont reçu les promesses et les bénédictions de Dieu. Étienne est en train de faire ressortir ça. Lorsqu'on arrive au verset 51, possiblement qu'il resterait des notes sur ma droite si vous cherchez des notes. Lorsqu'on arrive au verset 51, écoutez bien le verset, Étienne dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Alors, Étienne dit, vous êtes pareil comme vos pères. Ce peuple-là a toujours été opposé à l'Esprit Saint. Regardez le verset 51, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce matin. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » On pourrait traduire aussi par « vous résistez constamment au Saint-Esprit ». Les deux termes sont là dans le grec, l'idée d'opposition et le fait que c'est une constante. C'est très lourd comme accusation, ce qu'Étienne est en train de dire. Il est en train de dire « vous êtes caractérisé par cette opposition, cette résistance » constante à l'Esprit Saint. Alors, de quoi Étienne est-il en train de parler ici? De quelle sorte de péché contre l'Esprit on est en train de parler? Déjà, une chose qu'on doit remarquer, c'est que Étienne regarde en arrière, puis chaque fois que, parce qu'on est dans un cours sur l'Esprit Saint, chaque fois qu'Israël s'est opposé à Dieu, Étienne regarde ça, puis il dit, à chaque fois vous étiez en train de vous opposer, et là, il s'en va dans la Trinité, il dit, à l'Esprit. D'accord? Le livre des actes des apôtres est parfois appelé aussi le livre des actes du Saint-Esprit. Si vous lisez le livre tranquillement, juste en essayant d'observer, de prendre en note, de voir comment l'Esprit travaille dans le livre des actes, c'est extrêmement instructif. C'est très excitant. Tu termines ça puis tu veux vivre cette, cette présence, cette puissance de l'Esprit dans ta vie. Maintenant, lui regarde en arrière à travers l'histoire d'Israël, et chaque fois qu'Israël s'est rebellé contre Dieu, spécifiquement, il dit, c'est contre l'Esprit que vous êtes rebellé, à chaque fois. D'accord? Dans le cas du blasphème contre le Saint-Esprit qu'on a vu la semaine dernière, on parle probablement d'un péché individuel. Là, dans ce cas-ci, Étienne est en train de mettre tout le peuple d'Israël dans un même paquet. Puis il dit, comme peuple, vous avez eu toujours cette constance-là de vous opposer, de résister au Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y a une nuance déjà au niveau de ce péché-là. Ça semble caractériser l'ensemble du peuple. Comme j'ai mentionné la semaine dernière à travers le cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier notre texte, on va aller voir comment il a été interprété un peu à travers l'histoire de l'Église. On n'est pas les premiers chrétiens qui nous penchons sur ce passage biblique. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de chrétiens qui ont lu ça et qui se sont interrogés pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va aller voir à travers l'histoire s'il y a eu des interprétations particulières du passage. Puis après ça, on va essayer de démêler un peu tout ça et de voir qu'est-ce que ça peut changer pratiquement dans notre expérience à nous avec l'Esprit Saint. D'accord? Alors, à travers l'histoire, disons tout d'abord que ce péché-là exprimé comme ça, c'est la seule fois qu'il est mentionné dans tout le Nouveau Testament. D'accord? Il n'y a jamais d'autre accusation directe, semblable, de s'opposer ou de résister à l'Esprit Saint. Et le terme qui est là en grec, c'est un terme assez violent. C'est un terme vraiment, là, c'est une opposition violente, c'est une confrontation avec l'Esprit de Dieu. C'est la seule fois qu'il est mentionné. Au début du 17e siècle, ce passage-là a été au milieu d'une polémique énorme. D'accord? Là, je vais faire un tout petit peu de théologie, donc ça se peut que j'aille avec des termes que vous êtes moins familiers. Mais Jean Calvin avait commencé à écrire une première théologie systématique, la première théologie systématique sérieuse à travers l'histoire de l'Église, qui s'appelle « Les institutions chrétiennes » de Jean Calvin. Et ce document-là s'est imposé comme quelque chose de majeur pour essayer de résumer ce que la Bible enseigne sur différents sujets. D'accord? Et donc, Jean Calvin était déjà extrêmement influent à cette époque-là. Et il y a un groupe qui s'est levé des disciples du théologien Jacobus Arminius. Alors, ceux qui êtes familiers avec le terme l'arminianisme, c'est lui qui a inspiré cette approche-là aux Écritures. Et donc, il y a un groupe de disciples de Jacobus Arminius qui ont estimé que ce passage nous permettait d'affirmer qu'on peut résister à une œuvre de l'Esprit dans notre cœur. Dans la théologie de la Réforme, une des choses qui est ressortie, c'est que lorsque Dieu veut sauver un individu, cet individu-là va se convertir. D'accord? Si Dieu vient et dit, « Louise, je veux que tu sois à moi », il va venir éclairer son cœur et elle va accepter l'appel de Dieu. En théologie, on appelle ça « irresistible grace » en anglais, ou la grâce irrésistible. D'accord? Quand Dieu appelle, celui qui est élu va répondre. Et ça, c'est un élément important de la théologie de la Réforme. D'accord? Ces disciples de Jacobus Arminius ont vu dans ce passage-là le contraire. Ils ont dit, ici, on voit qu'on peut résister à un appel sur notre cœur, à un appel de l'Esprit de Dieu. C'est possible de dire non. Et donc, il y a un paquet de choses qui vont découler de ça. Et donc, on va les voir ensemble, je vais les énoncer rapidement, là. Mais ça a été une question assez sérieuse que l'Église à cette époque-là, européenne, protestante au complet, de différents mouvements, a convoqué un synode, une espèce de concile, le synode de Dort en 1618-1619, et ils ont rejeté cette affirmation-là. Ils ont dit non, quand Dieu a élu quelqu'un, c'est lui qui va appeler et c'est lui qui va venir attirer et tu ne peux pas résister à cette grâce-là. C'est Dieu qui te choisit. Alors, depuis ce temps-là, il y a deux camps qui se sont formés. Vous avez le camp de ceux qui ont une approche réformée au salut. L'approche réformée au salut, en anglais, ils ont résumé ça avec un acronyme, là, TULIP. Maintenant, en français, je ne l'ai pas rendu ici. Voici ce que ça comprend. Ça veut dire que ceux qui ont une approche réformée au salut croient dans la dépravation totale de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon à l'homme qui pourrait lui permettre de choisir l'Évangile, d'être sauvé, de gagner son ciel. Maintenant, c'est sûr, lorsque je le dis comme ça, tous les chrétiens sont d'accord que personne ne peut gagner son ciel. Mais la notion de dépravation totale dit qu'il n'y a rien, a priori, en moi qui ferait que je pourrais dire oui à l'Évangile. Je suis tellement corrompu que même devant l'Évangile, je vais dire non. Ça, c'est la dépravation totale. L'élection inconditionnelle, ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi ses élus de toute éternité. Il les a choisis. Ça suscite tout un mystère parce que les Écritures nous disent qu'on est responsable de dire oui. D'accord? La rédemption limitée, ça veut dire que Christ est mort pour les élus. Limited atonement en anglais. La grâce irrésistible. Quand Dieu appelle, il va venir éclairer les yeux du cœur et on va accepter l'appel. Excusez-moi, il m'en manque un. La persévérance finale des saints qui dit que personne qui a été sauvé peut perdre son salut. Si la grâce est irrésistible, on ne peut pas perdre notre salut non plus. Ça, c'est un camp, c'est ceux de la théologie réformée. La théologie arminienne, c'est l'autre camp. Elle dit aussi qu'elle croit à la dépravation totale, sauf qu'elle dit « Dieu a proposé sa grâce à tous les hommes ». Donc, par nous-mêmes, on ne pourrait pas accepter, mais puisque la grâce est là, tous les hommes pourraient accepter. D'accord? Donc, c'est comme une autre version de la dépravation totale un peu. L'élection conditionnelle, ça veut dire que Dieu, regardant dans le futur, savait qui allait accepter, puis il a dit « Vous autres, je vais vous inscrire dans mon livre ». D'accord? C'est fondé sur la préscience de Dieu. Fait que quelqu'un comme moi je suis calviniste. Moi, je vais dire, mais ça, ce n'est pas de l'élection. Parce que finalement, c'est juste la préscience. Il a regardé dans le futur et il a écrit ton nom. Mais faites-vous-en pas, ils ont aussi d'autres arguments de l'autre côté. Je ne pourrais pas rentrer dans tous ces débats-là. Donc, l'élection conditionnelle. La rédemption universelle, c'est-à-dire que Christ est mort aussi pour ceux qui ne croiront pas. La grâce résistible. Dieu appelle, mais il n'y a pas d'appel irrésistible. Si l'individu à qui Dieu vient éclairer le cœur a encore la latitude, la possibilité de dire non, je ne veux rien savoir. Et puis, bien évidemment, ce qui est la suite logique de ça, c'est-à-dire qu'on peut perdre notre salut aussi. Puisque la grâce est résistible, on peut aussi sortir après ça de cette grâce-là. Ça, c'est les deux camps. C'est les deux camps majeurs. Donc, il y a des choses que vous avez entendues des deux côtés, vous avez dit ah oui, non, oui, non, oui, non. Fait que si vous lisez, vous allez rencontrer des gens qui croient dans quatre des points des réformés, puis dans un des points de l'autre côté. D'accord? Je ne vous dis pas que c'est tout tranché au couteau. Ça va? Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est dans le même camp. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à l'approche réformée sur cette question-là, mais qui vont dire « limited atonement », la rédemption limitée. Je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai de la difficulté à croire ça. Et donc, ça, ils vont avoir des doutes. Ça, c'est un des éléments que certains vont refuser, ou l'idée d'une élection inconditionnelle. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est juste pour vous donner un contexte, d'accord? Lorsqu'on va prendre 5-10 minutes pour aborder les questions de la théologie à travers l'histoire, je sais que ça se peut que vous dites, toi, mais ça ne change absolument rien dans ma vie, ce que tu viens de me dire, Yannick, c'est totalement inutile ce que tu viens de dire là. Non, je suis en train de vous donner des références pour lorsque vous allez lire. Lorsque vous allez apprendre, quand vous allez aller dans des cours, ces notions-là vont venir se placer tranquillement dans votre esprit. Et tranquillement, vous allez regarder les textes en disant, « Ah, sais-tu, je pense qu'en fin de compte, on est élu sur la base de la préscience de Dieu selon ce texte-là. » Puis là, dans un autre texte, on dit, « Non, ça a l'air d'être une élection pure. C'est Dieu qui choisit. Un point, c'est tout. » D'accord? Ça va vous donner des références pour réfléchir, pour identifier ces choses-là. Ça, c'est le débat qu'il y a eu à travers l'histoire, puis le débat continue encore aujourd'hui. D'accord? Alors, quand je vais dans des conférences où est-ce qu'il y a d'autres pasteurs, en général, je suis avec des théologiens réformés, en général. Mais il va y avoir des gens parmi nous qui n'ont pas une approche réformée. D'accord? Et donc, il y a des gens dans les églises évangéliques qui peuvent être dans les deux camps. La majorité vont être du côté des réformés. Oui, Suzy. Je vais résumer ce que tu as dit, puis je vais tout de suite prendre la défense de l'autre côté, qui n'est pas le mien. Mais juste pour montrer, oui, ça a des conséquences. Tout ça a beaucoup de conséquences sur notre approche au salut, notre approche à l'évangélisation, notre approche à la prière. Ça a énormément de conséquences. Alors, ce que Suzy a dit, c'est que si je suis convaincu que la grâce irrésistible existe, par exemple, ça veut dire que je vais prier pour un individu, puis si Dieu répond puis il appelle cette personne-là, je sais que cette personne-là va se convertir. Mais si je crois que la grâce est irrésistible, ça se peut que la personne dise non, malgré ça. D'un autre côté, les Arméniens, évidemment, vont dire, oui, mais pourquoi prier, puisque les élus vont être sauvés. Je veux dire, c'est Dieu qui les a choisis, ils sont élus, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de bouger. Et là, ceux comme moi ont dit, humblement, je reconnais qu'il y a un mystère ici parce qu'il y a une responsabilité. C'est clair qu'il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de sauvés si on ne prêche pas l'Évangile. Donc, il faut que je prêche pour qu'ils soient sauvés. Mais ça a des conséquences. D'accord? Ça a des conséquences. Les réformés ont généralement été accusés de dire, ce que vous croyez, ça diminue le zèle pour l'évangélisation. Parce que c'est Dieu qui décide toute l'affaire en bout de ligne. Ceux comme moi qui croient ça, on dit non, au contraire. On s'en va avec la conviction que Dieu nous précède dans tout ce qu'on est en train de faire. Oui. Absolument. Alors, c'est là que le gros du débat se situe. Est-ce que l'homme est libre de choisir? Dans ma réponse à moi, un calviniste dirait, dans les Écritures, on ne voit pas la notion de liberté individuelle, on voit la notion de responsabilité. Donc, l'homme est responsable de dire oui ou non, mais il est élu. C'est un beau grand mystère, d'accord? Je sais que j'ai ouvert une boîte de Pandore. Je vais juste vous donner des références ce matin, c'est tout. Puis je vous m'aide. Oui. Alors, d'une part, il y a un texte qui va nous dire qu'il faut prier pour tous les hommes, puis d'autre part, dans les Actes, il y a un texte qui nous dit tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent dans la parole. Ben là, pourquoi prier pour toute la gang si c'est juste ceux qui sont prédestinés? Vous voyez, c'est pas simple. Mais je ne ferai pas tout le débat ce matin, je vais juste vous donner des références, d'accord? Si vous voulez lire des bons livres, j'ai des bons livres, d'accord? Peut-être qu'un jour, on fera un cours juste sur ça. Ça va? Est-ce qu'il y avait une question qui nous amenait ailleurs ou qui restait dans ce beau débat-là? C'est bon, on avance? OK. Le débat continue aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'on va répondre à toutes ces questions-là. Et ce n'est pas des questions pour lesquelles on briserait la communion avec quelqu'un, d'accord? Oui. Donc, l'Esprit appelait. Ce n'est pas tous les Israélites qui ont refusé. Oui. Oui. Mais évidemment, il y a ceux qui ont cru, les prophètes, qui servaient Dieu, définitivement. La question qui nous importe, nous, avec le passage de Actes 7:51, c'est de savoir, est-ce que ce dont il est question ici, c'est un appel que Dieu est en train de faire dans le cœur ou ce serait juste un appel at large? C'est un petit peu ça. Est-ce que ce passage-là vient éclairer cette question de la grâce irrésistible ou non pour essayer d'adresser ce débat historique-là? Puis en fait, ce qui nous intéresse plus, c'est juste de voir qu'est-ce que ça veut dire puis qu'est-ce que ça a comme impact pour nous. Je suis au milieu de la page 3, d'accord? Le mot grec qui est là, c'est antipiptein, qui signifie résister, s'opposer violemment. Ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. Une des questions qu'on se pose lorsqu'on est en train de lire un livre d'histoire comme le livre des Actes, c'est dans l'expérience des croyants ou dans ce qui est dit dans un livre d'histoire, est-ce qu'on peut découler des doctrines de ça de la même manière qu'on va faire ressortir des doctrines des lettres de Paul? D'accord? Lorsque je vois un chrétien vivre une expérience dans le livre des Actes, est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens doivent vivre ça? Puis là, je vais dire, ah, OK, ça s'est passé comme ça. Par exemple, ici, il y a eu des langues qui sont descendues. Quand il y a une conversion, il y a des langues de feu qui vont apparaître. Puis s'il n'y a pas de langue de feu, il n'y a pas de conversion. Est-ce que j'ai le droit de faire ça avec un texte comme ça? Est-ce qu'il sert à ça, ce texte-là? Est-ce que je peux faire ressortir des doctrines, des récits? D'accord? Et une manière de régler cette question-là, c'est de comprendre que les livres d'histoire dans la Bible, on pourrait les appeler des livres d'histoire théologique. Il y a un contenu théologique dans l'histoire. À travers ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire d'un individu, on apprend des choses sur Dieu. D'accord? Et c'est comme ça à travers toutes les Écritures. C'est, dans l'Ancien Testament, on assiste à l'histoire du peuple d'Israël. Et à travers leur histoire, on va déduire, on va comprendre des choses sur la personne de Dieu. Donc oui, on va le faire. On va regarder la prédication d'Étienne, puis on va tirer des choses, on va tirer des conclusions sur le plan biblique. Les accusations apportées contre Étienne ressemblent beaucoup à celles qui sont apportées comme Jésus, je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est très, très, très similaire. Et donc, une des choses qui va sortir du texte, c'est la même manière que vos pères se sont opposés à Dieu, la même manière que vous êtes opposés à Jésus-Christ, vous êtes en train de vous opposer à moi, et tout ce temps-là, vous êtes en train de vous opposer à l'Esprit-Saint. D'accord? Ça, c'est une des choses qui ressort de la prédication d'Étienne. Prochaine page. Pardon? C'est clair que c'est possible de s'opposer à l'Esprit-Saint. Est-ce qu'on est en train de parler de... est-ce qu'on est en train de dire qu'on peut résister à un appel personnel de l'Esprit? Est-ce que le texte nous permet de répondre à cette question-là? Tu comprends? Ça, c'est une autre question. C'est clair qu'on peut s'opposer à l'Esprit-Saint. Massivement, en groupe, c'est clair. Un appel extérieur, ça, c'est clair. Mais c'est la conclusion de mon cours. Non, c'est pas vrai. C'est une des conclusions. Étienne les accuse donc d'être comme leur père. Il leur parle des prophètes qui ont été persécutés par leur père. Et puis, bon, on sait, il n'y aura pas l'occasion de terminer sa prédication. La prédication d'Étienne, c'est l'art de ne pas se faire des amis. D'accord? Fait que, il ne l'a pas fini. Il a été mort lapidé. Maintenant, c'est important de remarquer la réaction des auditeurs d'Étienne. Regardez avec moi au verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. D'accord? Ils ont une réaction extrêmement violente. Donc, lorsque Étienne les accuse de résister violemment à l'Esprit-Saint, c'est devenu très, très, très apparent parce qu'ils ont eu une réaction physique, même violente. Ils ont été emportés à ce moment-là jusqu'au point de le mettre à mort. Et ça va être important parce que tout à l'heure, on va regarder différentes réactions au même message que l'Esprit va apporter. Le contexte de l'ensemble de la prédication suggère que la résistance à l'Esprit-Saint est liée au fait de ne pas vouloir obéir à la parole de Dieu, à ses promesses, à ses lois, aux prophètes envoyés par Dieu. D'accord? Puisque Étienne les accuse d'être comme leur père, donc ce n'était pas juste l'Évangile, hein, leur père n'avait pas entendu l'Évangile de Jésus-Christ comme Étienne l'a proclamé, mais il dit « Vous êtes comme vos pères, et vos pères ont toujours résisté aussi à l'œuvre de l'Esprit, ou résisté à l'Esprit-Saint. » Donc, résister à l'Esprit-Saint est lié au fait de ne pas vouloir obéir à la parole de Dieu, à ses promesses, à ses lois, aux prophètes envoyés par Dieu. Et Étienne présente un premier cas, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Moïse, au verset 39. Ce qui ressort de la prédication, c'est que le peuple d'Israël n'a pas voulu écouter la parole de Dieu apportée par les prophètes. D'accord? Et c'est comme ça qu'il va l'interpréter, il va dire « Vous résistiez à la parole de Dieu. » Maintenant, dans le livre des Actes, la parole de Dieu est donnée par l'Esprit-Saint. D'accord? Dans le livre des Actes, la parole de Dieu est donnée par l'Esprit-Saint. Là, je vais faire un lien, là, on va juste aller voir quelques versets ensemble. Là. Mais ça veut dire que pour Étienne, résister à l'Esprit-Saint, c'est résister au message qui est apporté. Au message de la parole. D'accord? C'est important parce que ça a un impact sur notre évangélisation. Dans le livre des Actes, comme je le mentionnais, la parole de Dieu est amenée par l'Esprit-Saint. Regardez avec moi les quelques références que je vous ai données. Là, j'en ai mis trois, on aurait pu tous les regarder. Verset 1, 6. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Quand David a parlé, c'était la parole de Dieu, c'était l'Esprit-Saint qui a donné ça à David. D'accord? La parole de Dieu qui a été donnée par David vient de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit qui donne la parole. Et ils furent tous, verset 2-4, je suis au milieu de la page 4, là, Verset 2-4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mettent à annoncer les grâces de Dieu, ils le font par l'Esprit Saint. D'accord? On n'est pas dans la parole écrite de Dieu, mais ils sont en train de dire des choses que le Saint-Esprit leur donne d'annoncer. Verset 4-25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Alors, à chaque fois qu'on a des textes inspirés des Écritures, Étienne dit, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. C'est le Saint-Esprit qui est derrière la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers ça. Même lorsqu'ils étaient en train de parler en langue puis d'annoncer des merveilles de Dieu. Donc, il y a une relation qui s'installe entre le message, la parole et l'Esprit-Saint. Résister à l'Esprit-Saint, c'est probablement résister au message de Dieu. Est-ce que vous me suivez sur ça? Ça va? Ça va avoir un impact sur notre évangélisation. D'accord? Rejeter les paroles d'Étienne, qui était lui-même rempli de l'Esprit-Saint, revenait à s'opposer à l'Esprit, tout comme leur père s'était opposé aux prophètes. Alors, en gros, ce qu'Étienne dit, il dit à travers l'histoire d'Israël, Dieu a envoyé des messagers poussé par l'Esprit-Saint qui apportait un message de Dieu. Et chaque fois que vous vous opposiez aux prophètes de Dieu, que vous rejetiez le message que le Saint-Esprit avait donné aux prophètes, vous étiez en train de résister à l'Esprit de Dieu, vous étiez en train de résister à Dieu. D'accord? Ça devient concret quand moi je m'en vais annoncer l'Évangile puis que quelqu'un résiste. Ce n'est pas avec moi là, que la bataille est en train d'être livrée, même si moi je finis lapidé. C'est une guerre entre cette personne-là et Dieu. Vous me suivez? Et c'était la même chose pour Étienne, puisqu'Étienne était rempli d'Esprit-Saint, il est en train de prêcher l'Évangile, il est en train de faire tout ça, et il s'oppose au message qu'Étienne apporte. Donc, ils sont en guerre avec Dieu, ils sont en train de résister à l'Esprit de Dieu. D'accord? Pourquoi réagir-t-il si violemment? Bien, nous pourrions dire qu'en agissant ainsi, ils démontrent qu'ils sont en fait incirconcis de cœur. Paul va reprendre cette idée-là, Les vrais juifs, c'est ceux qui sont circoncis, non physiquement, mais circoncis de cœur. C'est ceux qui ont reçu le message de la parole. C'est ceux qui ont reçu l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. Nous pourrions dire qu'en agissant ainsi, ils démontrent qu'ils sont en fait incirconcis de cœur, comme le dit Étienne, et ont un profond besoin de recevoir un cœur nouveau par l'Esprit Saint, tout comme leur père avant eux. Jérémie 31, 31 à 34 l'avait annoncé. D'accord? Étienne, il regarde l'histoire en arrière, mais les prophètes disaient déjà ce qu'Étienne dit ici. Quand Étienne il dit, à travers toute l'histoire, vous êtes toujours opposé à Dieu, vous êtes incirconcis de cœur, bien, écoutez ce que Jérémie dit dans Jérémie 31, 31 à 34. « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Il y a un problème de cœur avec Israël. La loi n'entre pas dans leur cœur. Et Dieu va venir leur donner un cœur nouveau. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'un groupe d'individus va résister au message de l'Évangile, au message de la parole? C'est qu'ils ont un cœur mauvais et ils sont en train de s'opposer à l'œuvre de l'Esprit-Saint lorsqu'on est en train de proclamer l'Évangile. Une première question importante est de déterminer dans quelle mesure on peut définir des doctrines à partir d'un récit. Ça, je l'ai mentionné. Je vais aller tout de suite au prochain paragraphe parce qu'il me reste juste 20 minutes. Une première question importante au milieu de la page 5 est de déterminer jusqu'à quel point on peut définir une doctrine à partir d'un récit. En effet, les récits bibliques ne se présentent pas de la même manière qu'une lettre ou qu'un texte prophétique. Le récit nous rapporte-t-il un événement isolé ou pouvons-nous en tirer une doctrine et des conclusions doctrinales? On a commencé à répondre à cette question plus tôt en disant que les livres d'histoire dans la Bible, c'est des livres d'histoire théologique en réalité. Par exemple, l'interprétation que l'apôtre Pierre fait des événements de la Pentecôte. Qu'est-ce que Pierre dit lorsque le Saint-Esprit se manifeste à la Pentecôte? Okay, on a un événement dans l'histoire, l'Église est là, puis le Saint-Esprit arrive. Qu'est-ce que Pierre dit? Est-ce que vous vous rappelez? Comment Pierre va interpréter ça, ce qui se passe là? Oui? OK. Exactement. Alors, il est en train de dire, ce sont les temps qui s'accomplissent. Et puis, il va aller plus loin parce qu'il va dire, ce que vous voyez là, l'Esprit là, qui vient sur vous, là, c'est ce qui avait été annoncé lorsque l'Esprit serait donné. Et un peu plus tard dans l'histoire, lorsque Pierre va aller chez Corneille, d'accord, qui est un païen, puis là, Corneille va recevoir l'Esprit-Saint pendant que Pierre est en train d'annoncer l'Évangile. Mais après ça, quand Pierre doit justifier pourquoi il est allé annoncer l'Évangile à des païens, mais il dit, écoutez, l'Esprit qui avait été annoncé dans Joël, que nous, on a reçu à la Pentecôte, eux autres viennent de le recevoir. Qui on est pour s'opposer à l'œuvre de Dieu? On est dans de l'histoire. On n'est pas dans une lettre de Paul. On n'est pas dans un livre de doctrine. On est dans une histoire. Et si on n'avait pas cette histoire-là, il y a des grands morceaux de théologie qui nous manqueraient. On n'arriverait pas à interpréter, à comprendre toutes ces choses-là. Il dit, regardez, là, nous, on a reçu un baptême de l'Esprit. Puis c'est ça qui s'est passé avec Corneille, c'est ce qui avait été annoncé dans Joël. Donc, on est dans de l'histoire, et l'histoire est extrêmement importante. Elle nous aide à comprendre comment Dieu est en train d'opérer et ce qui est en train de se passer. Ces gens-là étaient là et interprétaient l'histoire à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? Donc, on a des choses importantes à tirer des livres d'histoire dans les Écritures, parce que c'est des livres d'histoire théologique. Sans ce passage, aucun autre passage du Nouveau Testament n'établit de lien aussi clair entre le baptême de l'Esprit, les événements de la Pentecôte, la conversion de Corneille. Alors, c'est parce que Pierre était là, il a interprété l'histoire, ce qui est en train de se passer, qu'on dit, c'est ça le baptême de l'Esprit. Et si vous prenez le temps juste de lire ça, vous allez régler toute la question du baptême du Saint-Esprit. D'accord? Non, c'est ça que je vous dis. C'est exactement ça. Mais ce qui me permet de dire ça, c'est à la conversion qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Ce qui me permet de dire ça, c'est que Pierre l'a interprété comme ça. D'accord? Je ne peux pas répondre à cette question théologique-là en allant juste dans une lettre de Paul puis en disant, ah, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que Pierre regarde en arrière puis il dit, ça avait été annoncé par Joël, ça s'est passé à la Pentecôte, puis ça s'est passé avec Corneille. C'est ça le baptême de l'Esprit. Donc, ça se passe au moment de la conversion. Ça, c'est une autre question qui serait intéressante. Mais je ne pense pas que le Saint-Esprit, clairement, le Saint-Esprit n'allait pas habiter dans les croyants de la même manière dans l'Ancien Testament. C'est une autre question. C'est le salut. Mais dans l'Ancien Testament... Dans l'Ancien Testament, l'Esprit allait sur les personnes plutôt qu'aller dans le cœur des personnes de manière permanente. Oui, Armand. Oui. Oui. Mais en fait, je pense qu'ils vont faire une interprétation un peu plus subtile que ça, parce qu'ils vont être d'accord si je dis, si on n'a pas reçu l'Esprit, on n'est pas chrétien. Ils vont être d'accord avec ça aussi. Alors là, il y a recevoir et recevoir. D'accord? Dans le fond, c'est... Alors, je suis d'accord, dans ces premiers moments-là, il y a des manifestations extraordinaires, puis... Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une conversion, à chaque fois que l'Esprit vient dans un individu, il doit y avoir ces manifestations? Ça, c'est une autre question. Mais Pierre, lorsqu'on lit Pierre, on lit le livre des Actes, puis on voit comment il interprète ces situations-là, c'est clair pour Pierre que ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est clair pour Pierre que lorsque le cœur d'un individu s'ouvre et que l'Esprit vient, il est baptisé de l'Esprit. Ça, c'est très, très clair. Est-ce qu'il doit toujours y avoir une manifestation? Ça, c'est une autre question. Oui. Ah, peut-être qu'il y avait un temps, puis il y avait des signes. T'es-tu en train de me suggérer de mentionner ça? Merci, Louise. Ce qu'on voulait établir ici, d'accord? C'était pas tout le débat sur le baptême du Saint-Esprit. C'est que le récit des Actes nous permet d'établir des choses doctrinales très, très, très importantes. Même si on parle de l'expérience d'individus dans un moment, ces gens-là commentent. Les apôtres commentent ce qui se passe et ils nous aident à comprendre l'histoire des Écritures. D'accord? Alors, c'est la même chose avec Étienne. Sa prédication vient nous éclairer grandement sur le développement de l'histoire du salut. D'accord? Ça, c'est une première question. Maintenant, probablement que l'explication au débat sur ce passage-là, de résister à l'Esprit-Saint, probablement que l'explication est dans le fait qu'il y a un appel extérieur, puis il y a un appel intérieur. L'appel extérieur, c'est simple, hein? J'ai juste à mettre un panneau afficheur dehors qui présente l'Évangile 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, où j'ai juste à le publier dans un journal, l'Évangile, clairement, puis tous ceux qui vont le lire ont un appel. Quand ils ont entendu l'Évangile. Est-ce que c'est possible de résister à cet appel-là? Mais combien de millions de personnes à travers l'histoire de l'humanité ont entendu l'Évangile et ont dit non? C'est même pas une question, c'est évident qu'on peut résister à cet appel-là. Maintenant, si l'Esprit détermine d'aller éclairer un cœur, est-ce que ce cœur-là peut dire non? Ça, c'est l'appel intérieur. On va aller voir ensemble vite l'histoire de Lydie dans Actes 16. Je vous l'ai mis ici, mais vous pouvez tourner dans Actes 16 si vous voulez voir le contexte. Dans Actes 16, on voit les deux appels dans la vie d'un individu. On essaie de comprendre comment l'Esprit de Dieu travaille. Alors, il y avait cette femme, Lydie, marchande de pourpre, je suis dans Actes 16, 14, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Donc, elle entendait le message qui était apporté par l'envoyé de Dieu. D'accord? Elle entendait l'appel extérieur. Elle est en train d'écouter. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Oups, là, il y a une œuvre de Dieu dans son cœur. Donc, il y a deux choses qui se passent. Il y a le message qui est annoncé, puis il y a une œuvre de Dieu dans le cœur de Lydie. C'est expressément dit ici, là. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alors, j'aurais tendance à associer ça, par exemple, avec... Oui? 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 D'accord. Donc, elle craignait Dieu et ça a pris une intervention de Dieu pour que... C'est ça. Peut-être. Oui. Dans d'autres cas, comme avec le geôlier, vous allez avoir des gens qui n'étaient pas des craignants Dieu. Ou vous allez avoir le larron qui est sur la croix qui n'était pas spécialement un craignant Dieu. D'accord? C'était quelqu'un qui était là pour des bonnes raisons. C'est le seul qui était là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avec son collègue. Et ce n'était pas un craignant Dieu. Puis, whoops, il a accepté l'Évangile à ce moment-là. D'accord? Oui, oui. Donc, ce qu'on voit ici avec Lydie, c'est probablement cette idée-là qu'il y a deux appels. Il y a le message qui est proclamé à tout le monde. D'accord? Puis, il y a une œuvre qui se passe dans le cœur de l'individu. Étienne est en train de parler qu'eux autres étaient incirconcis de cœur. En effet, elle entendait l'appel extérieur, mais le Seigneur intervint dans son cœur afin qu'elle soit attentive. En utilisant l'exemple de Lydie et du peuple d'Israël, excusez-moi, j'ai mal fait ma phrase ici, on peut voir qu'il est possible de résister à l'appel extérieur de Dieu, et probablement qu'on pourrait conclure avec ceux comme moi qui ont une vision calviniste, que l'appel intérieur est pas résistible. Parce que l'Esprit de Dieu vient intervenir dans le cœur de l'individu. D'accord? Mais je ne suis pas en train de dire que le texte de Actes 7, 51 nous dit que l'appel intérieur est irrésistible. Ça ne parle pas de ça. Donc, sur la question historique à travers l'histoire qui dit « Ah, on a la preuve ici que c'est possible de résister. » Un individu peut dire « Non, je ne me convertirai pas même à un appel direct de l'Esprit-Saint. » Le texte ne parle pas de ça. Le texte parle de l'appel en général qui est donné. De la même manière qu'on proclame l'Évangile partout. Et ça, c'est clair que tu peux résister à ça. Si l'Esprit-Saint détermine de venir éclairer ton cœur, est-ce que tu peux dire non? Le texte ne parle pas de ça. Ce n'est pas ce texte-là qui va venir éclairer cette question-là. Oui?
Ouais.
Si vous voulez, je vais jaser avec vous après pour répondre à votre question. Mais je ne répondrai pas directement à votre question, juste pour une raison, c'est qu'on va adresser 6 questions pratiques par rapport à l'Esprit-Saint, et à travers ça, on ne va pas essayer de régler le code de toutes les assemblées Pentecôte. D'accord? La question, mais je comprends votre question. La question, c'est, on voit nulle part dans le récit biblique que les individus, en recevant l'Esprit, se mettent à se jeter à terre. D'accord? Fait allusion à des choses qui se passent dans certaines assemblées. Mais ça me fera plaisir. Venez me voir après, je vais en jaser avec vous. Ben, j'espère que non, sinon je le fais souvent. Je ne pense pas que vous blessez l'Esprit Saint. Je pense qu'on use de discernement. D'accord? Oui. Oui, Karine. S'il vous plaît. Oui. Non, mais ce qu'on cherche, c'est dans la relation avec l'Esprit-Saint. C'est juste par rapport à l'œuvre de l'Esprit. T'sais. Est-ce que je peux comme résister à l'Esprit? Ben oui, je peux résister au message général qui est apporté par les serviteurs de Dieu. Ça vient, c'est un message qui vient de l'Esprit. Est-ce que moi, comme individu, je pourrais résister à un appel personnel? Ce texte-là ne parle pas de ça. C'est la seule fois où on a cette idée-là de s'opposer à l'Esprit de Dieu. Puisqu'on est en train de parler juste d'un cours sur l'Esprit-Saint. Ben oui, il y en a plein. On essaie de comprendre comment l'Esprit travaille, d'accord? Et c'est vraiment ça à travers les questions qu'on adresse. Il me reste juste 7 minutes, il me reste deux pages à voir. C'est une bonne question. Mais en fait, Mme Paradis, j'ai répondu. Oui. Non, venez me voir. Mais en fait, c'est parce que j'avais déjà répondu à la question. D'accord? J'avais déjà répondu à la question, Mme Paradis, c'est lorsque je vois des manifestations chez une personne, puis qu'elle me dit « ça, ça vient de Dieu ». Puis que moi, je dis « non, moi, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas que ça vient de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que c'est diabolique, ton affaire. Je suis en train de te dire que moi, je n'y crois pas, personnellement. Est-ce que je suis en train de blasphémer contre l'Esprit? Non. Non, je ne suis pas en train de blasphémer. C'est vraiment se servir du texte hors contexte. Très, très clair. C'est bon? Ça va? La résistance à l'Esprit-Saint. Alors, réactions diverses à la proclamation de la parole de Dieu. Là, ça va devenir un peu plus pratique. Là. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je manque les deux dernières pages. Réactions diverses à la proclamation de la parole de Dieu. La résistance à l'Esprit-Saint, dans leur cas, ceux qui sont avec Étienne, ça les pousse au meurtre. D'accord? Ils réagissent tellement violemment qu'ils vont se rendre jusqu'à commettre un meurtre. Ils furent violents, agressifs, et ils réagissent à la proclamation de la parole. D'accord? On trouve des réactions semblables au niveau de l'agressivité dans Actes 5, lorsque Pierre comparaît devant le Sanhédrin. C'est le même message qui est annoncé. Il y a encore une fois de l'agressivité et c'est vraiment juste un jeu politique qui fait que les gens du Sanhédrin ne vont pas éliminer Pierre à ce moment-là. Actes 5, 32. Tournez avec moi dans Actes 5, 32. Pierre comparaît devant le Sanhédrin s'oppose à ce que Pierre rapporte, il refuse ce que Pierre est en train de dire, puis là il dit à Pierre, il faut que tu te taises, il faut que tu arrêtes de parler. Pierre, il dit, à qui je vais obéir, à Dieu ou aux hommes? Non, je veux parler. Et regardez sa conclusion au verset 32, nous sommes témoins de ces choses, parlant des apôtres, des disciples évidemment, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui reçoivent nos paroles sont ceux qui obéissent à l'Esprit-Saint, eux autres aussi croient ce qu'on apporte ici. Quand on voit encore toute cette relation-là avec résister ou obéir à l'Esprit-Saint. Maintenant, Étienne prêche un message très direct. Il leur dit, c'est vous les coupables, c'est à cause de vous que Jésus est mort. D'accord? Pierre prêche un message très direct devant le Sanhédrin. Il les accuse. Mais Pierre avait déjà prêché le même message, vous vous rappellerez, dans Actes 2. Dans Acte 2, Pierre avait dit « Ce Jésus que vous aviez crucifié » lorsqu'il s'adressait à la foule. C'était assez direct, c'était assez provocateur comme message. Est-ce que ça s'est terminé par une lapidation? 3000 âmes sont converties. D'accord? Alors, c'est le même message qui est prêché dans les deux cas. Dans un cas, ça a fini par une lapidation. Dans l'autre cas, il y a 3000 personnes qui se convertissent, qui acceptent le Seigneur cette journée-là. Une implication pratique de ça. D'accord? c'est que notre mandat à nous, c'est d'aller annoncer l'Évangile et de s'attendre à ce que Dieu vienne sauver les individus. Je n'ai pas à changer mon message. D'accord? Étienne prêche un message et finit lapidé. Est-ce que Étienne a été fidèle? Il a dit la vérité, il a annoncé l'Évangile, il l'a fait fidèlement. Pierre prêche un message devant le Sanhédrin, il est rejeté. Il prêche le même message devant la foule, il y a 3000 hommes qui se convertissent. Alors, est-ce que dans notre évangélisation, on devrait chercher des techniques particulières pour voir des conversions? D'accord? Parce qu'on est à l'époque de la technique. On est à une époque pragmatique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on prêche vraiment le message clairement? D'accord? Mais si je prêche le message clairement, je peux avoir des roches ou une conversion. Et donc ça devrait être une mise en garde importante pour l'Église aujourd'hui. Vous cherchez le bon traité là, qui va faire des conversions, il n'existe pas. On cherche une méthode. Nous autres, on a une méthode d'évangélisation, on a telle technique. Là, puis, tu sais, le pasteur, quand il fait un appel comme ça, là, ouf, il y a des résultats. Wow! C'est grave, là. C'est-à-dire? T'as les quatre terres. Oui. Alors, ça revient à dire que c'est Dieu qui va sauver, tu sais, dans ce cas-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est important pour nous, c'est de prêcher le message. Maintenant, dans votre expérience personnelle, il y a des gens qui vous annoncent l'Évangile depuis longtemps et vous dites, peut-être que je ne prends pas la bonne méthode. Vous le faites, c'est vrai ou non? Vous avez des gens dans vos familles à qui vous annoncez l'Évangile puis vous vous dites, si Guy Lavoie parlait, là, je pense qu'il se convertirait. Peut-être que vous avez péché quand vous avez pensé ça, puis moi aussi. D'accord? Oui, Esther. Ah. Alors ça, c'est une question quand même. Est-ce que j'ai annoncé l'Évangile? D'accord? J'ai témoigné comment Jésus a changé ma vie. Est-ce que j'ai annoncé l'Évangile? Non. J'ai parlé de mon Église. Est-ce que j'ai annoncé l'Évangile? Non. J'ai dit que Jésus peut te rendre heureux. Est-ce que j'ai annoncé l'Évangile? Non. D'accord? Il faut que je sache c'est quoi l'Évangile. Il faut que j'annonce l'Évangile. Mais nous-mêmes, dans notre expérience personnelle, on parle à des gens puis on se dit, ah, s'ils lisaient ce livre-là, là, je pense que là, ils se convertiraient. Non. Non. Maintenant, on sait que les gens vont entendre souvent le message avant de se convertir. On le voit. Il y a plein de gens qui l'entendent plein de fois. Mais même l'idée de dire, OK, on va prendre une stratégie pour que les gens l'entendent au moins 10 fois chacun. Parce que ça prend 10 fois pour que les gens se convertissent. Non. Non, le larron, il s'est converti la première fois. Il était là à côté de Jésus. Bon, peut-être qu'il l'avait entendu avant. Le geôlier, peut-être pas. L'Égyptien, en tout cas, hein, était en route, il lisait, puis pouf, on y annonce l'Évangile, il se convertit. Alors ça, c'est une implication pratique. On annonce le même message, ce n'est pas nous qui déterminons qui va accepter. Des fois, on va avoir une roche, des fois, on va avoir une conversion. Un élément qu'on peut observer par rapport à Étienne, au niveau du rôle de l'Esprit-Saint, c'est le fait qu'Étienne était rempli de l'Esprit lorsqu'il annonçait l'Évangile. Et une relation intéressante qu'il y a dans le livre des Actes, c'est que l'Église va prier pour ça. D'accord? Tournez avec moi dans Acte 4, versets 23. Alors, Pierre est libéré, verset 23, acte 4, 23, après avoir été relâché, ils allèrent vers les leurs et racontant tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix vers Dieu, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de nos pères. » Et là, ils vont prier, ils vont demander à Dieu, « Viens remplis-nous, viens faire une œuvre parmi nous. » Une des choses qu'on voit à travers le livre des Actes, c'est une relation entre prêcher avec courage l'Évangile, le faire rempli de l'Esprit-Saint et la prière. Ça, c'est une chose qui est constante dans le livre des Actes. D'accord? Après ça, qui va résister à l'Esprit? Qui va accueillir l'œuvre de l'Esprit? Ça, c'est une autre question, c'est l'appel du cœur. Comment est-ce que Dieu sauve? Mais ce que ça a comme implication pratique pour nous aujourd'hui, c'est que si on est déçu du faible nombre de conversions, plutôt que de rechercher des techniques particulières, on doit accepter l'idée que certains vont annoncer l'Évangile et vont recevoir des roches, Il y en a d'autres qui vont annoncer l'Évangile, vont recevoir des conversions. Et ce que nous, on doit faire, c'est annoncer avec courage l'Évangile. Tout simplement, prier pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Oui. Bon, OK, c'est bon. Je vais juste répéter le commentaire de Louise, puis on va terminer là-dessus. Louise a dit, le problème, peut-être, c'est qu'on change un peu le message pour, de peur de recevoir des roches. Mais là, l'implication, ça veut dire qu'on n'annonce pas l'Évangile. Alors, si je change un peu le message, de peur de recevoir des roches, puis que je ne vois pas des conversions, est-ce que la personne qui est devant moi résistait à l'Esprit-Saint? J'ai changé le message, je n'ai pas en train de résister à l'Esprit-Saint, je n'ai même pas annoncé l'Évangile. D'accord? Donc, on ne s'en sort pas. On va dans la prière, on dit, Seigneur, donne-moi le courage d'Étienne et le courage de Pierre. J'aimerais ça avoir les 3000 conversions, mais ça se peut que je reçoive des roches. Je m'en vais annoncer l'Évangile. Et si les gens décident de résister au message, ce n'est pas un débat personnel avec moi. Ils ne sont pas en lutte avec moi, ils sont en lutte avec l'Esprit de Dieu, parce que j'annonce le message. S'ils ont un cœur incirconcis, ils vont s'opposer à l'Esprit Saint. Puis je vais accepter cette réalité-là. D'accord? Ce que ça veut dire, je termine là-dessus, pour l'Église, soyez soucieux de voir qu'on est en train de vous conduire dans une prédication entière de l'Évangile. Soyez soucieux de voir que les anciens et l'Église, on essaie de vivre ensemble qu'est-ce que c'est l'Évangile dans nos relations les uns avec les autres. Et faisons confiance à Dieu pour sauver puis pour ajouter des âmes. Cherchons pas des techniques magiques, des événements particuliers, des choses comme ça, des choses qu'on va organiser qui vont être des recettes. D'accord? On proclame l'Évangile, puis Dieu va sauver. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce sont des passages difficiles à comprendre. On a vu qu'il y avait toutes sortes de doctrines qui étaient attachées à ces questions-là. Mais on essaie de comprendre comment ton esprit travaille, comment ton esprit sauve. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de l'Évangile à quelqu'un et qu'il réagit agressivement, Seigneur? Est-ce qu'il n'est pas en train de s'opposer non à moi, mais à l'Esprit-Saint parce que j'annonce l'Évangile? Seigneur, je veux te demander de nous donner comme Église le courage et la fougue d'Étienne. Le courage de proclamer tout l'Évangile. Étienne leur a dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Donne-nous, Seigneur, le courage de dire les choses entièrement. Aide-nous à les vivre avec intégrité aussi. Mais Seigneur, nous nous en remettons à toi pour voir des conversions. Nous renonçons à l'idée qu'une technique quelconque produira des conversions. Nous croyons, Seigneur, que c'est ton message et l'œuvre de ton esprit qui va le faire. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci pour vos questions.